Chapitre 26. Jules Brunel s'arrangea à être sur pied au bout de 2 jours et, pendant ce temps, plusieurs choses incompréhensibles s'éclaircirent. Saisi d'un accès d'amour paternel, en même temps que d'une recrudescence de bronchite, Jules Brunel avait suivi sa lettre presque immédiatement et, par un hasard dont il s'enorgueillissait comme d'une attention spéciale de la Providence à son égard, il avait rencontré Daniel Christelin en sortant du train. À ces questions pressantes, l'honnête anabaptiste n'avait pu refuser le récit des circonstances actuelles, l'adresse de Donna, et sans perdre une minute, Jules Brunel avait escaladé un autre train, ce qui expliquait son arrivée à près du camp sur les talons de son fils. L'extrême philanthropie du directeur s'expliquait moins. « Si votre père est sans gîte, qu'il reste ici, » dit M. Piqueret à Donna le lendemain. « Nous trouverons pour lui quelques petites besognes. » « Je comprends votre sollicitude filiale, oui, je la comprends. Nous élargissons les cordeaux de la tente, nous accueillons l'infortuné, même le récidiviste s'il se repent. » Donna frémissait un peu en lui-même à certains mots, mais comment aurait-il pu s'y soustraire? Et quel autre abri, éloigné comme il était de toutes ses connaissances, aurait-il procuré à son père dans cette mauvaise saison? On logea Jules Brunel dans une petite chambre, que chauffait un vieux poêle de terre à potier. On l'y laissa tousser tranquillement tant qu'il voulut. Pendant ce temps, Donna s'apprivoisait à son programme et ses écoliers s'apprivoisaient à lui. On faisait des leçons quand on n'avait rien de mieux à faire, mais pour le moment, on coupait du bois en forêt. Cela s'appelait l'enseignement rural professionnel. « Vous ferez l'enseignement rural professionnel, » dit M. Piqueret à son jeune instituteur le matin du 21 décembre. « Vous n'y êtes pas préparé, mais vous vous instruirez sous la direction du chef du travail rural. Madame Piqueret vous fournira au plus juste prix une paire de grosses mitaines. Votre père va mieux ce matin? Je n'en suis pas étonné. L'air est excellent ici. Veillez à ce qu'il ait tout ce qu'il lui faut, eau chaude, eau froide en abondance. Une nourriture légère pour ne pas augmenter la toux. » Donna passa donc sa journée avec l'escouade des petits bûcherons. Il s'enthousiasma pour ce travail. Personne plus que lui n'aimait la forêt, ses senteurs, sa liberté. Dans la compagnie des mères Jean-Richard, il avait appris bien des choses de la faune et de la flore jurassienne. Lorsqu'au bord d'une clairière, il découvrit la piste fraîche d'un renard, avec ce petit effet d'une plume sur la neige, là où la queue touffue avait balayé, il sentit son cœur battre d'intérêt. Il montra cette trace à Nemo qui se trouvait près de lui. Nemo sifflota entre ses dents. « Nos poules vont diminuer, » dit-il. Le lendemain, en effet, 3 poules avaient disparu, de petites taches sanglantes et quelques plumes témoignaient du massacre, bien que la porte du poulailler eût été trouvée fermée comme elle devait l'être. Tous les garçons travaillaient au bois. Même les petits de 7 ans, il y en avait 3 de cet âge, s'occupaient à rassembler les écorces et les copeaux, et ils faisaient des fagots de brindilles. On ne laissait rien traîner. Les grands sciaient ou coupaient à la hache de grosses branches, puis les entassaient sur de légers traîneaux, les encordaient, les amenaient dans la cour de la maison. Ce qui frappait Donna, c'était leur silence. On n'entendait pas de rire, ni d'appel, pas de mélodie sifflée ou fredonnée. On chuchotait d'un voisin à l'autre, et toujours l'œil restait aux aguets. Drôle de gamin, de quelle race sont-ils donc? L'un s'oublie à parler haut tout à coup. Gueule pas! Fait le chef du travail rural, se tournant d'une pièce, les pousse dans les 2 goussets de son broustou de laine. Un garde-chiourme, pense Donna. Il ne bat pas le coup. Mais on pourrait croire qu'il a une cravache dans sa poche, tant ses enfants travaillent courbés et sur le qui-vive. Est-ce que M. Martin est vraiment si méchant que ça? Alors Donna parle lui-même pour voir. Il interpelle l'escouade tout entière. « Vous entendez ce bruit, là-bas, à droite, dans les arbres? C'est le pic qui tape avec son bec. Ah, si nous pouvions le voir, c'est un bel oiseau, il a une calotte rouge et l'air intelligent. » Les garçons interrompent leur travail, se jettent des coups d'œil. Alors M. Martin tire à l'écart ce jeune homme qui ne sait pas. « Pardon, M. Brunel, » fait-il derrière sa main. « Il n'est pas permis de causer. »« Ah, les galères, donc. prononce Donna un peu révoltée. Nemo, qui n'est qu'à deux pas, a entendu. Une émotion intérieure le fait pâlir, et subitement, dans un seul regard, il jette toute son âme à ce jeune maître, à ce messie. « Dis donc, » fit Jules Brunel le même soir, quand son fils vint s'enquérir, « tu en as de tes élèves qui ont des attentions pour moi, que c'est incroyable. Je leur plais évidemment. L'un m'a apporté un œuf tout chaud. Comme les œufs sont rares à cette saison, il vaudrait mieux n'en pas parler. Et puis, l'autre m'a refait mon lit. On a un peu causé. N'aie pas peur, je ne leur ai donné que de bons principes. Je leur ai dit comment tu as toujours rempli tes devoirs envers ton père. Alors le grand, celui qui a des sourcils très noirs, a dit comme ça, d'un drôle de ton, « Il ne faudrait pas qu'on nous le chine. » J'ai demandé « Qui est-ce qui pourrait bien penser à te chiner ?» Mais ils sont malins, les petits. Ils n'ont pas répondu. Tu y comprends quelque chose ?»« Pas grand-chose, » répondit Donna pensif. Il était content de sentir son père dans une bonne chambre chaude. Son sang à lui, fouetté par le violent travail manuel, coulait vite et gaiement dans ses jeunes veines. S'il y avait encore de la tristesse au fond, elle ne surgissait plus en vagues révoltées. Et l'avenir, pour quelques mois peut-être, paraissait sans menace. Donna, jusqu'à la fin de décembre, n'eut que peu d'occasion de rencontrer Mademoiselle Clarisse. Cette jeune fille, institutrice, femme de charge, secrétaire et comptable, garde-malade de sa mère, cuisinière à l'occasion, incarnait l'activité perpétuelle. Elle n'était pas agitée, au contraire. Elle ne faisait que paraître et disparaître, sans bruit, toujours à propos. Elle parlait doucement, par petites phrases, souvent assaisonnées d'un grain de sel. Elle avait une influence dans toute la maison. Donna la trouvait intimidante et lui en voulait un peu de les ignorer, lui et son père, systématiquement. Il y avait certainement un fossé entre la famille du directeur d'un côté, le personnel et les orphelins de l'autre. Le jour de Noël, on alla tous à l'église en grande cérémonie. À dîner, le réfectoire vit un dessert de pommes et de noix sans autre festivité. Et jusqu'au 31 décembre, on travailla ferme au bûcheronnage pour profiter du temps clair et sec. M. Picret, voyant Jules Brunel rétabli, lui fit une proposition. « Restez avec nous, lui dit-il. Restez sous l'égide de votre fils. Je respecte les liens d'affection qui vous unissent. Votre chambre sera chauffée et votre linge sera blanchi gratuitement. Votre couvert sera mis au réfectoire. » En échange, vous donnerez un coup de main à réquisition. Vous pourrez, par exemple, cirer les chaussures de ma famille, frotter un parquet, seconder d'une façon générale la jeune fille qui nous sert. Jules Brunel accepta d'un air grave, mais il se tordait les côtes quand il rapporta l'entretien à son fils. Valet de chambre s'engage, voilà ce qu'il a le toupet de m'offrir, ton directeur. Je ne peux guère refuser. « Mais au printemps, quand je me serai un peu refait, ce que je vais me cavaler. Et puis, nous deux, on aura de bons moments d'ici là. Car il n'y a pas à dire, mon fils, je m'attache à toi. Mieux je te connais, plus je t'aime. »